Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue pour vous servir et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. J'espère que tu as passé un très bon week-end.
Excellent.
Premièrement, j'espère que tu es prêt pour notre emménagement dans notre nouvelle vie.
Ben voilà, parlons-en. Tiens, ben voilà, oui. Vous qui nous écoutez, les amis, peut-être que vous nous suivez sur Instagram, peut-être que vous nous suivez aussi sur
LinkedIn. On l'espère fortement.
Et dans ce cas-là, vous n'avez pas pu rater cette info. On ouvre à Lyon un social base camp, un endroit exceptionnel dont on est très fiers, sur lequel on a travaillé pendant des mois, dans lequel on va produire du contenu, un espace dédié à la création de contenu, hein, 450 mètres carrés ici en centre-ville de Lyon pour produire du contenu avec des studios, avec des espaces pour streamer, avec une cuisine gigantesque.
Il y a un balcon aussi.
Un balcon, bien sûr, un endroit vraiment canon. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir un peu les coulisses de tout ça. Et puis effectivement, tu l'as dit, il y a toute l'équipe du Super Daily qui est juste derrière la porte de ce studio qui a hâte qu'on termine
voilà.
Pour pouvoir emménager.
On termine et on chemine tous ensemble symboliquement vers...
Ils ont été sympas, ils auraient pu y aller sans nous, tu vois, puis nous attendre qu'on finisse.
Ça aurait été pas sympa, du coup.
Bon, les amis, allez, youpi, youpi, c'est lundi. Camille, quoi de neuf dans ta besace ce matin?
Alors, je vais commencer par une news très fun, Thibaut. Une news sur TikTok. Hein. Il y a presque un an, les États-Unis demandaient à leur GI de ne plus utiliser TikTok lors de leur manœuvre intervention à l'étranger. Il y a quelques mois, le Congrès américain interdisait aux membres du gouvernement d'utiliser l'application sur leur mobile pro. Décision suivie par plus de 50% des États américains derrière tout ça. Derrière tout ça, on voit une peur, une sorte de peur qui nous replonge en pleine guerre froide, la peur d'être espionné par le gouvernement chinois, d'être dépendant d'applications chinoises étrangères qui, malgré la promesse, arrivent jamais à garantir finalement la neutralité, la sécurité des données. Hein. C'est jamais rassurant ce truc-là. Pour rappel, en novembre, un TikTok avait publiquement reconnu que les données de ses usagers européens pouvaient être consultées selon les besoins du service par des employés dans plusieurs pays, dont la Chine. Donc globalement, ils n'arrivent jamais à rassurer les gens. Et voilà que la terreur gagne du terrain et déménage outre-Atlantique, puisque c'est à la Commission européenne de bloquer également l'application, car Bruxelles craint que le réseau social chinois puisse être instrumentalisé à des fins d'espionnage par Pékin. C'est les mots qu'ils ont utilisés. Donc les membres de la Commission européenne ont jusqu'au 15 mars pour supprimer l'application de leur tel pro et perso, sans quoi ils se verraient retirer l'accès à des outils utiles à leur travail, comme leur mail professionnel par exemple. Je trouve que c'est assez dingue et que ces mesures, elles illustrent une époque où tout bouge très vite et qu'on comprend pas grand chose. T'as en ce moment Emmanuel Macron qui est en Chine pour essayer de ramener la Chine de son côté de la guerre en Ukraine et finalement nous on interdit leurs applications en même temps. C'est un peu
Alors plusieurs choses. D'une, peut sans doute que les ballons qui ont survolé l'Australie et les États-Unis n'ont pas aidé TikTok aussi par extension. Et puis rappelons, tu disais effectivement interdiction pour l'armée américaine pour les militaires américains d'utiliser TikTok
Ça c'était à peu près compréhensible initialement.
Interdiction de TikTok dans un certain nombre d'universités américaines. Donc c'est vrai que ça se durcit de plus en plus pour l'application d'origine chinoise, puisque rappelons qu'aux États-Unis c'est une branche soi-disant indépendante, complexe tout ça, et sans doute que le pire ennemi de TikTok, eh bien c'est TikTok lui-même.
C'est flippant, je trouve, tout ça.
Allez, moi, je vous emmène totalement ailleurs, puisqu'on va aller du côté de LinkedIn, chers amis. LinkedIn qui a décidé d'ajouter des nouveaux outils pour personnaliser son profil. LinkedIn cherche concrètement à rendre les profils utilisateurs plus sexy visuellement. Ouais. Et c'est pas un luxe. Objectivement, c'est pas un luxe, puisque la plateforme, elle est globalement inchangée depuis...
Toujours.
Depuis toujours. Voilà. Merci, tu m'ôtes les mots
de
la bouche.
12 ans, je pense.
C'est ça. Globalement, c'est à peu près la même tronche depuis toujours. Alors, c'est ce qui fait aussi la force de LinkedIn. Mais désormais, vous aurez plus de façons d'intégrer des éléments visuels dans la présentation de votre profil. C'est mine de rien, à l'échelle de LinkedIn, c'est une grosse annonce. Hein. Ça se passe du côté de l'onglet activité. Tu sais, quand tu es sur ton compte perso LinkedIn, tu as cet onglet activité. Aujourd'hui, tu as tes posts. qui viennent se mettre les uns au-dessus des autres. C'est objectivement pas très joli, avec pas beaucoup de place laissée au visuel. Et bien ici, LinkedIn va désormais afficher des images, des vidéos, des articles dans un affichage beaucoup plus esthétique. En gros, ça ressemble à un petit carrousel et vous avez la possibilité de choisir ce que LinkedIn va mettre en avant de prime abord. Pour le premier, quand quelqu'un vient se connecter, est-ce que tu décides, est-ce que c'est plutôt mes vidéos, les vidéos que j'ai publiées, est-ce que ce sont plutôt les photos que j'ai publiées ou les articles, etc., etc. Et cette nouvelle interface, elle va être disponible petit à petit, évidemment, mais pour tous les membres et dans les semaines prochaines. Donc ça, c'est cool. Premier point très intéressant de LinkedIn. Je vous mets un lien en note de cet épisode si vous voulez aller voir quelle tronche ça va avoir.
Au passage, la page, votre activité, là, quand tu vas, elle est éclatée. Tu as l'impression d'être sur la dernière page d'un journal en ligne et de ne pas savoir ce que tu dois chercher. Quoi.
Exactement. Donc, toute l'idée, c'est qu'ici, tu as quelque chose de nettement plus visuel. Quand tu as aujourd'hui un compte créateur sur LinkedIn, tu as déjà, tu sais, la possibilité d'avoir une sorte de carrousel de mise en avant. Et ben, c'est à peu près la même chose de façon plus aboutie, on va dire.
Okay.
Autre point. LinkedIn ajoute la possibilité de programmer des newsletters dans l'application. Ça fait déjà un petit moment, on va dire un an et demi à peu près, que LinkedIn a lancé son système de newsletter. Donc toi, moi, on peut créer un newsletter, les gens peuvent s'y abonner. Eh bien, désormais, il va y avoir la possibilité de programmer ces newsletters. Étrangement, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. J'étais contraint d'aller sur l'application, d'écrire l'intégralité de ma newsletter. Je pouvais la mettre en brouillon, mais je ne pouvais pas la programmer. Donc là, maintenant, je vais vraiment pouvoir programmer un cycle de newsletter. Intéressant. Autre point, eh bien, LinkedIn met enfin à disposition des URL d'abonnement. En un clic, en gros, cette newsletter, je vais pouvoir maintenant disposer d'un bouton que je vais pouvoir intégrer sur mon site, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux, potentiellement dans un lien sur Instagram, par exemple, qui va renvoyer directement sur même pas un formulaire d'abonnement, vers un bouton unique d'abonnement. Si, dès lors que tu as un compte LinkedIn, clac, m'abonner, et puis je vais pouvoir m'abonner à la newsletter de tout un chacun. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Et juste un petit point sur cette newsletter, eh ben, elle ne marche pas si mal sur LinkedIn. Forte croissance, la plateforme a récemment signalé que la création de newsletter dans l'application a été multipliée par 10 entre 2021 et 2022. Donc, il semblerait que ce format un peu parallèle soit en train de prendre.
Bah, en même temps, si ça peut nous éviter de se connecter à un MailChimp, récupérer sa double authentification à chaque fois, etc., ça peut être très cool.
Carrément.
Cool. Écoute, sexy quand même le sujet, je trouve. Moi, je vais te parler de YouTube, Thibaut. Lundi dernier, vous en parliez à Kadjan, YouTube qui ajoutait un nouvel outil à son panel social media avec la possibilité de répondre à une vidéo avec un YouTube Short, les vidéos courtes, un peu comme le fait aujourd'hui déjà TikTok et Instagram aussi. Et cette semaine, c'est une autre nouveauté qui pointe son nez d'un autre genre. Aujourd'hui, on sait que Google a son application de podcast, mais YouTube en est plutôt isolé avec des tests qui ont déjà eu lieu sur le podcast. Et il y a des réponses qui semblent apparaître pour gérer un peu plus professionnellement du podcast. YouTube testerait la possibilité de télécharger et de gérer des podcasts directement dans l'application YouTube Studio. Selon YouTube, c'est pour faciliter la distribution des podcasts des créateurs sur YouTube. Encore un moyen de les retenir dans l'application plus longtemps et de leur donner plus d'outils. Ils testeraient une expérience qui te permette de créer ton podcast, de définir une liste de lecture de diffusion existante en tant que podcast dans Studio. Donc tu pourrais cliquer sur un podcast et voir toute la liste de lecture lié à ça, comme on peut le faire pour des vidéos aujourd'hui, des groupes de contenu. Et dans le menu contenu apparaîtrait un nouvel onglet podcast.
Est-ce que ça veut dire que je peux plugger mon flux RSS de podcast directement comme Facebook l'avait proposé?
Je ne crois pas. J'ai l'impression que là, tu irais le plugger dans. Enfin, tu irais publier.
Uploader toi-même tes éléments audio.
Ça reste quand même YouTube. Le groupe Google fait ça. Par contre, il récupère les flux RSS de ce qu'on a, nous, Simplecast, Ocha ou autre, pour le mettre dans Google Podcast. Par contre, là, tu uploaderais toi-même, à ce que je comprends, ton podcast. Et en plus de cela, YouTube teste également de nouvelles analyses de podcasts qui fourniront des infos sur les performances d'écoute, mesurer le contenu, etc., comme ils le font pour les vidéos, mais en parallèle, vraiment, pour le podcast. Ça, je trouve que c'est une nouvelle assez ouf, parce que c'est pas terrible les performances d'écoute qu'on a en général. Les stats sont pas très poussées. Et quand on sait que YouTube est adossé à Google, qui a quand même un Google Analytics incroyable, tu pourrais récupérer des datas vraiment performante, je trouve.
Est-ce que moi j'ai bon, ok, affaire à suivre. Voilà. Moi, je vois pas trop parce qu'ils ont Google Podcast d'ores et déjà. Je vois pas pourquoi ils pluguent pas Google Podcast directement dans YouTube. Bah,
parce que Google Podcast a l'air d'être cette espèce d'agrégation de tous les podcasts du monde. Et là, YouTube, t'as tes créateurs à toi qui pourraient valoriser leur podcast comme un nouvel outil de création YouTube.
Ok, affaire à suivre. On verra ce que ça donne. Allez, moi, je vous emmène du côté de Meta. Meta qui s'adoucit. Et veut vous éviter la prison ferme, si je puis dire. Alors, je parle pas vraiment évidemment de zonze, hein, vous m'aurez compris, mais plutôt du Facebook jail. Tu sais, c'est un terme qui s'applique aux comptes qui ont marché en dehors des clous des CGU, conditions générales d'utilisation de Meta, et qui se retrouvent bloqués pendant 30 jours. On parle de Facebook jail. Hein. Eh bien, Meta a décidé d'adoucir sa politique, ou plutôt de la rendre plus compréhensible et plus pédagogique. Hein, le groupe a décidé de prévenir plutôt que punir et elle s'oriente vers un blocage, une politique des 7 avertissements et tu dégages.
Alors,
je vais m'expliquer. En gros, fini le blocage immédiat pendant 30 jours parce que ce qui se passait jusqu'à présent, c'est... et vous avez peut-être été victime de cette situation. Vous avez bugué, vous avez été sorti des clous d'une manière ou d'une autre sans vous en rendre forcément compte. Hein. Et puis vous vous retrouvez bloqué pendant 30 jours. Pendant 30 jours, vous n'avez plus accès à vos comptes Meta. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus publier, vous ne pouvez plus répondre, etc. Selon Meta, ils ont constaté que s'ils changeaient leur manière de faire, 80% des utilisateurs qui ont reçu des avertissements avant n'enfreignent plus leur politique pendant 60 jours suivants. Donc en gros, il vaut mieux prévenir, dire hey, « là, vous êtes, ce que vous faites, c'est pas bien », puis les gens se calment immédiatement. Alors évidemment, on parle ici de délits mineurs, hein. Utilisation de bots, par exemple.
Oui, tu t'abonnes trop de fois à plein de gens.
Voilà, non-respect des droits d'auteur, etc. Tout ce qui est de l'ordre, on va dire, du vrai délit légal, pédopornographie, drogue, trafic d'êtres humains, etc.
C'est
évidemment, tout ça,
j'imagine.
Ça reste très sévèrement puni. Et c'est aussi un des idées derrière le groupe Meta, c'est de se laisser plus de bandes passantes pour vraiment sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés fortement. Cette décision autour des 7 avertissements et tu dégages, cette décision elle fait suite aux recommandations du Facebook Oversight Board. Est-ce que tu te souviens de ce truc ?
Non.
Eh bien, c'est un organisme indépendant du groupe Meta, mais qui a été créé suite aux différents embrouilles dans lesquels s'est retrouvé Mark Zuckerberg. Eh bien, ils ont créé cette espèce d'organisme indépendant, de groupe de surveillance, on va dire, hein, composé d'avocats, d'universitaires, d'experts, qui agit comme une sorte de cour suprême spéciale Facebook, hein, qui est soutenu du coup par Meta, et qui va implémenter un certain nombre de leurs recommandations. C'est étonnant de voir que la première recommandation forte qu'ils font, elle va vers un adoucissement des sanctions à l'encontre des utilisateurs.
Bah, peut-être qu'ils ont vu qu'ils perdaient aussi des utilisateurs ou qu'ils recréaient des comptes systématiquement dans le cas de blocage. Ok, très intéressant. Moi, je vais te parler d'un truc qui n'a... d'autre chose, un truc que j'adore, les bagnoles et d'une marque que j'ai dans la peau, Renault.
Il me dit ça avec un petit air coquin.
Petit,
je comprends pas, j'ai pas la ref.
On se rappelle l'an dernier de la création d'une voiture volante pour les 40 ans de la 4L en partenariat avec Arsenal, qui est une marque de fringues, un préparateur auto aux États-Unis. D'ailleurs, j'adore ce compte à suivre. Début février, Renault fêtait les 30 ans de sa mythique Twingo. Et pour l'occasion, la marque a créé une belle activation social media comme on les aime avec le hashtag Reinvent Twingo. Réinventer la Twingo. La promesse était très cool, je trouve. Alors, il y a eu plein de contenu, hein, etc. Pour ses 30 ans, réinventer Twingo avec l'intelligence artificielle. Postez votre créa avec le hashtag Reinvent Twingo. Nous donnerons vie à l'un de vos chocards. Donc, déjà, donner vie à un chocard, ça peut durer 2 ans. Donc, tu sais que là, déjà, on est sur une histoire qui va durer. Résultat des courses, hein, je crois, une semaine après, 4581 Twingo proposées sous ce hashtag. Et les premières Twingo futuristes imaginées par l'intelligence artificielle sont immédiatement réutilisées en UGC, sous forme de créa, sous forme de carrousel.
Dans
ou
les
encore...
comptes réseaux sociaux de la marque.
Alors oui, bien sûr, j'ai carrément oublié de le préciser. C'est hashtag @Renault_France. Et ils sont réutilisés très vite. T'as des mash-up, c'est quand même très stylé. T'as une manne de contenu qui arrive immédiatement. Visiblement, les équipes de Renault l'avaient prévu parce que derrière, c'est staffé pour que ça soit republié assez vite. Les créas sont trop cool, franchement. Et en parallèle, hein, bien sûr, la marque avait créé du merch, quelques créas bien sympas, inspirés des années 90. Ce que je trouve très ouf, moi, avec Renault, c'est que la marque, elle s'inscrit bien dans son époque. pour faire revivre une marque qui, une voiture pardon, qui était futuriste à l'époque, mais là on parle d'une bagnole qui a 30 ans. Pour autant, ce que je kiffe moi, c'est que au travers de cette communication qui est très moderne, des véhicules toujours plus technologiques, etc., Renault a un pilier de contenu clairement identifié où il fait revivre ses anciens véhicules. Il y a quelques mois, c'était la Super R5 Turbo avec des designs de l'époque, mais aussi des créas renouvelés, une gamme de merch à chaque fois qui suit. Et je trouve ça très cool de les suivre.
Ouais. Comment ça marche ? C'est quoi ? Les gens vont sur l'IA qu'ils souhaitent, ils vont sur Midjourney.
Il n'y avait pas de limite.
Voilà, donc chacun peut utiliser son propre système.
Voire même
de...
la créer si t'as envie.
Voire même la photoshopper si t'es dans ce délire-là. Okay.
Carrément. Okay, et du coup, ils ont repris des créas en leur mettant des noms, genre la Cyberpunk Twingo. Donc franchement, l'équipe derrière était au taquet.
Bah, là, c'est passionnant, je trouve, tout ce qui se passe autour de l'IA. Et là, c'est une première activation vraiment cool de Renault intégrant l'IA au cœur de sa stratégie UGC. C'est vachement intéressant. Et je ne doute pas d'ailleurs que ça va pouvoir, parce que t'imagines la volumétrie quand même du UGC qu'ils vont recevoir, que ça pourra peut-être même nourrir les équipes, les équipes de création derrière, hein, parce que tu vas te retrouver avec des centaines de véhicules et en plus de l'engagement social dessus. Donc, ils vont être plus ou moins, on va dire, cooptés les communautés. C'est vachement intéressant.
Carrément. Ça a vraiment de la gueule. Donc, allez regarder tout ça.
Les amis, voilà ce qu'on pouvait se dire pour ce lundi. Merci à vous d'être aussi nombreux à écouter le Super Daily en podcast. On vous rappelle, on est aussi sur Twitch tous les matins, 9h, 9h30. Voilà, si le cœur vous en dit, si vous voulez voir le pull violet de Camille Poignant, eh bien, il fallait être ce matin sur notre channel Twitch, @supernatif. Si vous nous écoutez sur une application de podcast, on vous invite immédiatement, tout de suite, à nous balancer 5 étoiles et puis à nous mettre peut-être un petit com, ce qui ferait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis autour de vous.
Avec tout le monde que vous voulez, voilà.
Ta maman,
on est partout,
si
ta daronne, on est partout sur toutes les plateformes. Venez parler avec nous, on adore ça. Et on vous dit à demain.
Salut tout le monde,
ciao,
très belle journée,
salut.
Ciao, bye bye.